Chapitre 40. Minuit sur le mont Picot. Après le traumatisme des dernières semaines, il eût été difficile, se dit Poole, d'imaginer scène plus paisible. Les rayons d'une terre presque pleine révélaient les moindres détails d'une mer des pluies dépourvue d'eau et ne les écrasaient pas comme l'aurait fait la fureur incandescente du soleil. Le petit convoi de véhicules lunaires était disposé en demi-cercle, à une centaine de mètres de la discrète ouverture pratiquée à la base du mont Picot, et qui constituait l'entrée de la chambre forte. De cet endroit, la montagne ne méritait guère ce nom de pic que les premiers astronomes, induits en erreur par la forme de son ombre, lui avaient donné. Il s'agissait, en fait, d'une colline arrondie, et Poole n'avait aucun mal à croire que les visiteurs aimaient à en gravir le sommet à bicyclette. Jusqu'à ce jour, aucun de ces sportifs ne s'était douté du secret dissimulé sous leurs roues, et il espérait que désormais, le fait de le connaître ne découragerait pas ce salutaire exercice. Une heure auparavant, avec un mélange de tristesse et de soulagement, il avait remis la tablette rapportée de Ganymède. Pas une fois, au cours du voyage jusqu'à la Lune, il ne l'avait quitté des yeux. « Au revoir, les amis », avait-il murmuré. « Vous avez fait du bon travail. Peut-être une génération future vous réveillera-t-elle. Mais en réalité, je ne l'espère pas. » Malheureusement, il imaginait déjà la raison qui rendrait à nouveau nécessaire le savoir de Hallmann. À l'heure actuelle, un message devait être en route vers quelques centres de contrôle inconnus, apportant la nouvelle que leur serviteur sur Europe n'existait plus. Avec un peu de chance, il faudrait compter 950 ans avant que parvienne la réponse. Dans le passé, Poole avait souvent maudit Einstein. À présent, il le bénissait. Même les pouvoirs qui se trouvaient derrière les monolithes ne pouvaient apparemment pas exercer leur influence plus rapidement qu'à la vitesse de la lumière. L'espèce humaine devait avoir presque un millénaire pour se préparer à la prochaine rencontre. S'il y en avait une, peut-être à cette époque serait-elle mieux préparée. Quelque chose émergeait du tunnel. Le robot semi-humanoïde, monté sur chenille, qui avait emporté la tablette à l'intérieur de la chambre forte. Il y avait quelque chose de comique à voir une machine équipée d'une combinaison de protection contre les germes pathogènes, ici, sur la Lune. Une planète dépourvue d'atmosphère. Mais on avait choisi de ne courir aucun risque. Après tout, ce robot s'était déplacé au milieu de ces cauchemars soigneusement enfermés, et même si, d'après les images envoyées par les caméras vidéo, tout semblait en ordre, le risque existait toujours qu'une ampoule ait laissé échapper son contenu ou qu'une boîte se soit ouverte. La Lune constituait un environnement très stable, mais au cours des siècles, elle avait connu de nombreux secousses sismiques et reçu un grand nombre de météorites. Le robot s'immobilisa à une cinquantaine de mètres de l'entrée du tunnel. Lentement, l'énorme porte qui obstruait l'ouverture se remit en place et commença de tourner sur elle-même, tel un gigantesque écrou vissé dans la montagne.
« Que ceux qui n'ont pas de lunettes noires ferment les yeux ou les détournent du robot !»
dit une voix dans le haut-parleur du véhicule lunaire. Poole pivota sur son siège, juste à temps pour apercevoir une explosion de lumière sur le toit du véhicule. Lorsqu'il se tourna à nouveau en direction du mont Picot, il ne restait plus du robot qu'un amas de scories brillantes. Même pour quelqu'un qui avait passé la grande partie de sa vie dans le vide, c'était bizarre de ne pas voir de volutes de fumée s'élever des débris.
« Stérilisation accomplie !» dit la voix du chef de la mission. « Merci tout le monde. Nous retournons à présent à Plateau City. »
Et dire que l'humanité a été sauvée par l'utilisation habile de ses propres folies. Quelle morale peut-on tirer d'une telle histoire, se demanda Poole. Il contempla la planète Terre, si belle et si bleue derrière son manteau de nuages qui la protégeait du froid de l'espace. Là-bas, dans quelques semaines, il bercerait dans ses bras son premier petit-fils. Poole songea alors qu'en dépit des puissances semblables à Dieu et des principautés tapies derrière les étoiles, pour les êtres humains ordinaires, seules deux choses importaient. L'amour et la mort. Son corps n'avait pas 100 ans d'âge. Il lui restait encore beaucoup de temps pour l'un et pour l'autre.